Voilà, donc c'est juste pour dire que nous voulons avoir cette. Nous avons fait venir aussi Stéphane dans notre démarche de revitalisation. Déjà, il y a quelques semaines, nous avons eu notre retraite d'église. Nous avons réfléchi à l'église, réfléchi à ce que nous voulions vivre en tant qu'église. Et cette fois-ci, nous allons aborder une thématique à la fois qui paraît simple, mais aussi qui peut être aussi compliquée, celle de l'évangélisation. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir Stéphane, pour qu'il nous encourage dans cela. Et j'en suis sûr qu'on sera très encouragé à la suite de ce temps qu'on a avec lui. Donc je vais lui laisser la place, mais si vous voulez, on va prier. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour que Stéphane ait pu venir et qu'il puisse nous apporter ce que tu as mis sur son cœur pour nous dire ce soir. Je te prie de le bénir et je te prie de nous aider, Seigneur, à avoir une écoute attentive pour écouter ce que tu veux nous dire à chacun. Oui, béni sois-tu pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, je suis heureux d'être là, moi aussi. Je connais assez bien quand même votre communauté pour être venu plusieurs fois, pour avoir accompagné à une époque le conseil presbytéral qui était en train de se monter. C'est avec grand plaisir. Donc, je suis content d'être là pour ce week-end. Pour vous donner un peu le plan, la manière dont ça va se dérouler aujourd'hui et demain, je vais avoir une petite intervention aujourd'hui, enfin une intervention aujourd'hui, au culte demain, là c'est la communauté tout entière, et puis dans l'après-midi, je ne sais pas à quelle heure ça se termine, combien c'est prévu.
À 14h30, on avait prévu que ça commençait, et ça finit à 16h.
D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Non, moi c'est pour savoir. Et donc du coup, demain après-midi, on aura une intervention de plus, et puis une troisième, mais qui est un temps de prière. Tiens, à ce que, en communauté, on finisse par un temps assez important et pour de prière pour l'Église elle-même. Le thème de cette intervention, c'est l'évangélisation selon Jésus. Effectivement, en sous-titre, j'ai mis pour un témoignage plus fécond. Alors, on va essayer de voir ça. Le premier temps, c'est mon témoignage personnel. Et puis le second temps, celui de demain après-midi, c'est le témoignage ou l'évangélisation organisée dans l'Église. Donc on sait que la thématique de l'évangélisation et du témoignage s'articule sur ces deux axes-là. Ce que chacun, personnellement, dans sa vie chrétienne, comment il vit l'évangélisation, son témoignage personnel, et comment l'Église entière organise son témoignage ou l'évangélisation, sa stratégie d'évangélisation et tout cela. Nous verrons cela demain après-midi et on finira, je le disais tout à l'heure, par la prière. La question du témoignage est cruciale, évidemment, pour les églises, mais parce que, simplement, c'est aussi ce que le Seigneur nous demande. Il y a le texte qui m'est venu quand je réfléchissais à cette thématique, c'était paradoxalement, ce n'était pas un texte sur l'évangélisation qui nous y invite, mais encore que, c'est celui qui dit « La foi sans les œuvres est une foi morte. » Comme pour dire qu'on est chrétien dans l'agir concrètement. Le statut de chrétien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'être, mais il se traduit, ça doit se traduire dans notre vie concrète. Et la foi sans les œuvres est une foi morte et une dimension pour rendre vivante notre foi, c'est justement d'entrer dans l'obéissance de la parole de Dieu et notamment concernant l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas, comme quelquefois ça peut paraître dans les églises, un travail de professionnel. Concernant notamment les ministères d'église, comme évangéliste, comme pasteur, les anciens, c'est pas la responsabilité des responsables où c'est pas la responsabilité des professionnels, entre guillemets, c'est vraiment un travail pour tous. C'est une responsabilité qui s'adresse à nous tous. Aussi, nous allons tenter d'essayer de trouver comment nous devrions, dans nos églises, comment nous pourrions, dans notre église, comment, dans votre communauté, vous pourriez envisager l'évangélisation. Et, en mon sens, ce qui nous donne la piste sur laquelle on peut réfléchir et que je vais vous inviter à réfléchir avec moi, c'est la notion de l'incarnation de Jésus, l'incarnation du Christ. Aussi, d'ores et déjà, je voudrais que vous l'ayez dans votre esprit, et puis même si vous pouviez le noter, à la fin de la journée, demain, voilà la question qui sera posée, c'est comment comprenez-vous l'incarnation du Christ ? Okay ? Donc, du coup, on reviendra dessus, sur la notion d'incarnation, de l'incarnation du Christ. Je vous donne mes pistes, je vais vous donner là mes pistes, mais réfléchissez, notez ce qui vous vient, ce que ça vous évoque, cette nuit peut-être, demain, et puis on reviendra dessus pour reparler ensemble de ce que c'est que l'incarnation du Christ, de comment on pourrait comprendre la notion d'incarnation de Jésus. Dans mon exposé de maintenant, de ce temps que nous allons vivre, il va se dérouler en trois parties. Trois points dans la réflexion sur l'évangélisation dans le cadre du témoignage personnel. Le premier point, c'est la motivation. Le deuxième point, c'est le modèle. Et le troisième point, c'est la pratique. On va tenter d'être pratique, quelque peu. Autrement dit, trois points, Dieu, Jésus et moi. Le premier point, la motivation. La motivation, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui peut nous motiver à entrer dans la dimension, dans la dynamique de l'évangélisation et d'une évangélisation enthousiaste. Il faut commencer, et pour cela, il faut commencer, à mon sens, par le commencement. J'ai remarqué, on peut comprendre que chaque fois qu'il est question d'une notion clé de la parole de Dieu, sur laquelle on veut réfléchir, il faut commencer par le début, par Dieu lui-même. Il faut aller jusqu'à Dieu. On a trop tendance à réfléchir les choses à partir de nous, à partir de la personne, à partir de l'homme, à partir du monde. Et je crois que c'est beaucoup plus enrichissant de commencer la réflexion sur tous les aspects de notre vie, les notions clés de la parole, commencer par nous, par Dieu lui-même. Et du coup, réfléchissons la notion de l'évangélisation de manière personnelle. Et dans le cadre de la motivation, il me semble qu'on trouve la motivation en Dieu. Je veux m'expliquer. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est avant toute chose, on peut le définir dans son caractère comme étant un Dieu missionnaire. C'est le caractère même de Dieu. Moi, j'aime employer la formule, c'est le cœur de Dieu. Si on veut connaître Dieu, si on veut le découvrir, si on veut s'approcher de lui pour découvrir quelle est sa sensibilité, la sensibilité de Dieu, essentiellement, c'est qu'il est missionnaire. Il est un Dieu qui regarde aux hommes, parce qu'en regardant à l'homme, il regarde à l'autre homme, à celui qui est derrière. Et ça, c'est remarquable. Dieu, notre Dieu, est un Dieu missionnaire. Notre Dieu est un Dieu qui a dans son cœur le désir de la rencontre avec l'homme et le désir que les hommes le découvrent et vivent pleinement le potentiel, mais en tout cas le statut ce pourquoi ils ont été créés, ce pourquoi nous avons été créés. Adam et Ève, avec Adam et Ève, Dieu montre qu'il a créé l'homme et la femme pour qu'ils jouissent de sa grâce et qu'il le glorifie sur la terre. Genèse 1, versets 26 et 28, là, nous disent ça. Les patriarches nous montrent comment il bénit son peuple et pourquoi cette bénédiction se répand. Demain, au cours du culte, la prédication a pour thème, pour sujet, béni pour bénir. Nous sommes bénis pour bénir. On va voir comment ça. Et bien, cette notion-là, c'est directement tiré de ce que Dieu veut, du projet de Dieu pour les hommes. Notre Dieu est missionnaire et il y a tellement de textes dans la Bible dans lesquels Dieu lui-même s'adresse à son peuple, s'adresse à des personnes en particulier pour que ceux-ci aillent, soient dans le contact parce que lui-même est venu vers nous. Du coup, nous sommes invités, d'une certaine manière, à quitter notre zone de confort. Parce que Dieu lui-même est un Dieu qui va au-devant des gens. Tellement de textes. Le dessein divin est qu'aucune personne, qu'aucun ne périsse. C'est 2 Pierre, un chapitre 3, verset 9, qui dit qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Du coup, partant de là, on peut dire que le but de notre vie est donc de nous aligner sur la volonté révélée de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est celui-là qu'il veut que nous adoptions. Si nous voulons entrer dans une dynamique d'évangélisation, il est important d'interroger, de contempler Dieu et de nous rendre compte au travers de sa parole que c'est une personne qui a ce souci-là, lui-même. Il a ce souci-là. Et donc, si nous voulons nous mettre au diapason de lui, si notre désir, c'est nous mettre au diapason à la volonté de Dieu, ça va forcément nous conduire à réaliser que nous sommes appelés à être dans une dynamique d'évangélisation. La plus grande motivation à l'évangélisation, donc, c'est, en mon sens, c'est de contempler Dieu dans sa gloire. Que nous devenions, du coup, des adorateurs. Il est important qu'en tant que chrétien, notre relation à Dieu ne soit pas juste que cérébral, que ce soit quelque chose qui soit du cœur et qui nous mette dans une dynamique d'adoration, moi j'allais dire de louange, d'adoration, en tout cas de venir méditer, contempler Dieu dans sa gloire. Cette contemplation va nous remplir l'homme de l'Esprit de Dieu qui le pousse et qui poussera, j'en suis convaincu, à la dynamique de partage pour que d'autres découvrent. Que nous devenions, en tout cas, donc du coup, c'est une piste là, des contemplateurs, des adorateurs, des personnes qui sont dans une dimension d'adoration réelle, profonde, de contemplation de notre Seigneur. L'enthousiasme pour les témoignages est nourri à côté de cette dimension de la contemplation, de l'adoration de Dieu, nourri par la conviction, notez-le bien, par la conviction d'avoir un Dieu qui est grand. Avoir un Dieu qui est grand. En mon sens, c'est un des points principaux qui quelquefois manquent dans toute la réflexion de l'évangélisation dans les églises que j'ai fréquenté ou que je visite. Hein? On peut avoir le désir d'évangéliser. On se dit, ben, on est des petites églises, ça ne marche pas bien et tout ça, il nous faut absolument le faire, mais on est un peu bloqué, on ne sait pas. Et ben, la première piste que moi j'aime à donner, et ben, c'est de dire, il faut reprendre contact avec Dieu dans toute sa grandeur. Pouvoir m'émerveiller, hein, de qui est Dieu, de qui est mon Créateur. Il est grand. Quand on dit il est grand, on veut dire qu'il est puissant. Hein? Il a la puissance pour lui. Il est capable. Il a été puissant pour moi. Du coup, si je me délecte de cette réalité, hein, si elle devient une réalité pour moi, ça va entraîner un certain type de sentiments, de choses dans mon cœur qui vont être, ces choses-là vont être motrices dans la dynamique de l'évangélisation. Si on n'a pas conscience d'un Dieu qui est grand, si on n'a pas conscience d'un Dieu qui est puissant, qui est au-delà de tout ce que je vis, qui peut me sortir d'affaires, qui est celui dont je peux parler en disant, mais il peut régler ton problème, avec enthousiasme, avec autorité, avec conviction. Si je ne peux pas dire ça, hein, je ne peux pas être réellement dans l'évangélisation, parce qu'en fait, évangéliser ou témoigner, c'est dire quelque chose de Dieu, hein, c'est présenter Dieu aux gens. Mais quel Dieu je présente, hein? Quel est le Dieu que je vais présenter? Est-ce un petit Dieu? Comme on aimait à le dire à une époque, des générations, est-ce le petit Jésus? Eh bien non, nous, ce n'est pas le petit Jésus qu'on veut présenter. Le petit Jésus ne peut rien faire. Hein? Le grand Dieu, hein? Jésus-Christ, oui, il peut faire quelque chose. Mais pour pouvoir dire ça avec conviction, avec vérité, encore faut-il que j'en sois convaincu. Encore faut-il que je puisse regarder Dieu et m'émerveiller. Hein, pouvoir dire, oui, j'affirme, je le crois, tu es grand et tu es puissant. Voilà pourquoi je peux, sans hésiter, sans crainte aucune, parler de toi à ceux qui ont besoin, à ceux qui pourraient avoir besoin. Vous comprenez? Réellement important, la conviction, hein, d'avoir un grand Dieu. Hein. Et souvent, hein, c'est cette conviction-là qui manque, qui a été perdue. Hein, a été perdue au fil de la vie, avec la dureté de l'existence, avec la âpreté de nos expériences de vie, qui font que petit à petit, peut-être s'érode en nous cette conviction. Et jusqu'à peut-être à un moment donné, hélas, si on ne veille pas à notre âme, à notre relation à Dieu, on peut en arriver à se poser la question, Dieu est-il vraiment grand, finalement? Dieu est-il vraiment grand? Hein? Et des doutes peuvent venir s'immiscer dans notre vie à cause de l'expérience que j'ai vécue. Eh bien, si j'ai un doute sur ce Dieu, il est clair que je ne peux pas en parler. Hein? Il est clair que je ne peux pas le partager. Hein? J'ai besoin de partager quelque chose dont je suis convaincu qu'il est grand. Donc, premier point, un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est capable d'en avoir la conscience. Et ça, comment je réactive par rapport à ça? Comment je réactive ma vie spirituelle dans ce cadre-là? C'est dans ma relation avec lui. Je parlais d'adoration, je parlais de louange, je parlais de contemplation de sa parole et de lui, et de méditation de sa parole, de la parole de Dieu, pour redécouvrir, pour revenir dans la présence de Dieu et vivre cette réalité. Parce que c'est cela, hein, c'est convaincu de cela que je peux me mettre au diapason de la volonté de Dieu. je peux me remettre dans cette dynamique missionnaire parce que mon Père, parce que mon Dieu est lui-même missionnaire. Je disais, c'était le premier point, donc, la motivation. Dieu, missionnaire. Donc, tout un travail à faire pour reconnecter théologiquement, spirituellement, avec ce Dieu qui est grand. Deuxième point, le modèle. Modèle, on est motivé par l'évangélisation, on va se poser la question du coup, quel est le modèle ? Quel axe prendre ? Quel angle prendre ? Comment entrer dans notre... Eh bien, il me semble que le modèle de l'évangélisation, c'est le Christ lui-même. Plusieurs passages, hein. Luc 19, 10, Jean 17, 18, et puis celui que je vais vous lire là, Jean 20, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé. La réalité de l'incarnation est au cœur de notre évangélisation. La méditer l'incarnation et tous les aspects de l'incarnation va nous donner le modèle de notre évangélisation, la manière dont on va évangéliser. Dieu est venu, parce que c'est ce que ça veut dire, hein, il a envoyé son Fils qui a quitté un endroit pour venir rejoindre les hommes dans le leur et là être témoin du Père au milieu. Et bien voilà le schéma déjà qui se donne. Voilà le schéma de notre évangélisation. Quitter, hein, pour aller rejoindre les gens dans leur réalité, afin d'être avec eux, au milieu d'eux, témoins de celui que nous, de celui qui nous a envoyés. Hein, voilà le schéma qui peut être le nôtre. Par son incarnation et par toutes les étapes donc de l'incarnation, Jésus est venu, nous sauve et nous conduit vers le Père. Hein, les différents aspects de son incarnation, hein, sa naissance, sa vie et son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, sont toutes ces choses-là sont à méditer, hein, sont à méditer en ce qui concerne l'évangélisation. Je vous disais, j'avais donné comme exercice qui va suivre tout le long de notre week-end la notion de l'incarnation. Voilà un autre, pour préciser cet exercice, je voudrais que vous réfléchissiez, que vous méditiez, qu'ensemble on puisse partager sur l'idée l'incarnation du Christ nous donne des pistes, me donne des pistes dans mon témoignage, d'accord ? Dans le fait d'être un témoin et d'évangéliser. Et je vais donner des précisions. Tentons de réfléchir sur comment la naissance du Christ, donc l'épisode de la naissance, cette partie-là, comment sa vie et son ministère, comment sa mort, comment sa résurrection et son ascension sont et peuvent nous donner, peuvent nous aiguiller dans notre évangélisation. Ok, hein? Par exemple, et dire bon, sa vie et son ministère, je peux trouver rapidement des éléments. D'ailleurs, ce que je vais dire moi concerne un peu plutôt cet aspect-là. Mais là où je voudrais vous amener, c'est que chacun réfléchisse et puisse me dire, ben, par exemple, avec la naissance du Christ. La naissance virginale du Christ, ça dit quelque chose, hein, de l'incarnation et ça dit quelque chose de comment être témoin dans ce monde. Je ne sais pas si vous trouverez, hein, mais bon, voilà, réfléchissez-y. Sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection et même son ascension. Moi, je continue. Dans le modèle donc du Christ, le Christ est modèle de trois manières, à mon sens. Premier point, c'est que la vie et le ministère de Jésus peuvent être qualifiés de relationnels. Hein, Jésus a été dans la relation. De ce fait, l'évangélisation est basée sur l'amour et la relation. C'est sur quoi se fonde l'évangélisation. Hein, la présence de Jésus sur la terre est relationnelle. On peut dire que la dimension relationnelle, Jésus ne l'a pas découverte là, en venant sur terre. On comprend bien que ça vient du cœur de Dieu. Dieu lui-même est un être relationnel. Hein, nous disions tout à l'heure qu'il était relationnel au point de vouloir... Et ça se caractérisait par le fait qu'il était missionnaire. Mais il est missionnaire parce qu'il est en lui-même relationnel, la Trinité est relationnelle. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une communication relationnelle en Dieu lui-même. Et Jésus vient développer et concrétiser ça dans son contact avec nous. Donc, je disais, Jésus, la vie de Jésus a été relationnelle. Il s'agit de marcher aux côtés des autres, comme Jésus l'a fait. Cette incarnation impliquera donc d'entrer, mais plus précisément, j'allais dire, de laisser entrer les autres dans sa vie. Le modèle d'évangélisation que Jésus nous donne est tout autre chose, est l'absolu contraire du fait de rester dans l'anonymat. Il ne veut pas qu'on reste dans l'anonymat, mais qu'on soit dans une dimension d'ouverture à l'autre. Il nous engage dans une relation avec l'autre. On pourra ensemble réfléchir sur ce que ça veut dire, entrer en relation avec l'autre. Hein, parce que ça a beaucoup d'implications, ça. Ça, c'est le temps, hein. C'est le fait de les efforts de s'ouvrir à l'autre, réellement. Les efforts de laisser l'autre entrer dans sa vie, réellement. Hein. Laisser l'autre entrer dans sa vie. Dans un monde, dans une société, dans une culture où on est complètement fermé, dans laquelle finalement peu de personnes sont autorisées à entrer dans mon cercle. Et ben, le Seigneur m'interpelle pour finalement, dans le modèle du Christ, d'être dans le cadre relationnel et donc de réfléchir la dimension relationnelle de mon rapport avec les gens. Hein, et quand je dis cette ouverture, on sait très bien qu'il y a des degrés de connaissance. Je connais le président de la République. Hein, je peux me targuer d'une certaine manière de connaître le président de la République. Si il passait dans la rue, je le reconnaîtrais. Est-ce que pour autant je le connais? Hein, je ne le connais pas comme le Premier ministre le connaît. Encore qu'il y a des gens qui connaissent encore mieux le président de la République que le Premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, d'entrer et de permettre à l'autre de me connaître et que je puisse le connaître. C'est dans ce relationnel authentique et vrai que peut commencer le témoignage. Avant cela, c'est très compliqué de pouvoir être témoin réel. Mais on pourra partager. La dimension relationnelle est absolument importante. Le deuxième point du témoignage, du modèle que Jésus nous laisse en ce qui concerne l'évangélisation, c'est que Jésus s'est identifié sans se compromettre. Il s'est identifié aux hommes et il ne s'est pas compromis dans le péché. C'est absolument essentiel de comprendre cela. Il est allé loin dans la dimension relationnelle, du coup, hein, dans la connaissance, dans la compassion. Mais il n'est pas tombé dans le péché. Il n'a pas péché. Il a été semblable à nous, à l'exception du péché. Comme Jésus, nous sommes appelés à nous identifier. Et même, nous parlions d'un relationnel qui devait aller loin, donc à nous identifier d'une façon radicale, radicalement à l'autre, par l'amour. Mais nous sommes aussi appelés par Jésus à nous différencier, à nos différenciations de façon radicale, là aussi, par la sainteté. Voyez le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, et c'est ce paradoxe-là qui est fécond. Aller loin dans la relation, aller loin dans l'identification, celle que Jésus a eue. Il est allé dans ce monde, il est allé manger avec des prostituées, avec des gens de mauvaise réputation. Ça ne l'a pas empêché de le faire, le qu'en dira-t-on ou autre. Cependant, à aucun moment, on a pu le surprendre en faire de quelque chose qui aurait discrédité son témoignage. Je le répète, l'identification sans la compromission, Jésus s'est identifié sans se compromettre. Ça doit nous faire réfléchir sur la manière d'être avec les autres, sur jusqu'où on part avec les autres. Je me souviens de cette dame qui rendait témoignage en disant qu'un jour, on nous rendait témoignage justement en ce qui concerne l'identification sans la compromission, qu'elle nous disait que elle avait des très bons amis qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient même loin de la foi. Mais elle a le droit, et heureusement qu'on a des amis loin de la foi, sinon comment on pourrait leur rendre témoignage. Mais un jour, elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être allée trop loin. Le jour où elle a constaté, alors qu'elle était là, et qu'ils savaient qu'elle était chrétienne, ils se sont mis, c'était des bons amis, et ils se sont mis copieusement à se moquer de la foi chrétienne. Et là, ça a pu vous arriver peut-être d'autres fois, c'est pas ça le vrai problème, mais elle rend témoignage du sentiment qu'il a gagné. À ce moment précis, elle s'est dit, waouh, voilà des gens que je considère mes amis, et qui le sont réellement, que j'apprécie, je sais, ils se moquent de moi et de ma foi. Et en fait, quand elle a dit, mais moi je suis chrétien, mais vous vous moquez de moi, voilà la réponse qu'ils ont donnée. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Mais toi, tu es avec nous. Toi, on te connaît. Et c'est là pour moi qu'elle a dit, en fait, j'ai compris que je me suis compromise. Parce que j'ai pas mis les barrières, où je n'ai pas mis les choses qui allaient montrer qu'en tant que chrétien, il y a des choses que je ne dois pas faire, de telle sorte qu'ils voient la différence entre être chrétien et ne pas l'être. Puisque avec moi, j'affirmais juste, disait-elle, que j'étais chrétien, mais je faisais des choses comme eux, de telle sorte que pour eux, être chrétien ou ne pas l'être comme eux, c'était pareil. Faisons attention, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut être piégé dans le monde. S'identifier, être avec les gens, être dans le monde sans être du monde. Être dans le monde sans se compromettre. Troisième élément que Jésus donne comme modèle, dans le cadre du modèle qui est le sien, c'est que Jésus a porté son amour à son comble, apporter l'amour à son comble. Et au comble, c'est quoi? Ça a été jusqu'à la mort. Il n'est pas, et ça c'est juste pour dire, pas dire qu'on doit aller mourir, c'est juste pour dire qu'il a quitté, ou plutôt, il n'est pas resté dans sa zone de confort. Il n'est pas resté dans sa zone de confort. Donc tout. Son amour pour les gens Son désir de les voir sauvés a fait qu'il est allé loin. Il est allé jusqu'à donner sa vie. La motivation pour entrer en rapport avec nos contemporains, en rapport pour leur témoigner du Christ, nécessite qu'on cultive dans nos cœurs et qu'on chemine avec l'aide de Dieu dans un amour, développer l'amour de Dieu pour eux, en nous, qui va nous pousser d'aller loin et de quitter notre zone de confort pour pouvoir les atteindre. Pour quitter notre zone de confort pour pouvoir les atteindre. Voilà une piste. En ce qui concerne du coup le modèle, je disais, je le reprends donc, hein. Notre motivation est en Dieu, le Dieu missionnaire, mais le Dieu aussi qui est grand et puissant, hein, celui dont on peut être fier, hein, celui dont on peut être fier, heureux de présenter. Le modèle, c'est du Christ, qui nous donne des pistes sur notre manière de témoigner. Témoignage qui est dans le relationnel, pas dans l'anonymat. L'identification, s'identifier sans se compromettre et porter l'amour hors de notre zone de confort, loin. Ok. Troisième point, après la motivation et le modèle, la pratique, une pratique. Premier point, la motivation, Dieu. Deuxième point, le modèle, Jésus. Troisième point, la pratique, c'est moi. Comment faire pour évangéliser? Et là aussi, je propose trois points qui sont nourris, me semble-t-il, par l'incarnation du Christ, par la méditation de l'incarnation du Christ et tout cela. Je les donne, ces trois points, amour, l'amour, la vérité, ou j'allais dire plutôt l'amour, l'authenticité, plutôt que de dire vérité, l'authenticité, et le troisième point, la puissance. Vous avez compris, c'est l'évangélisation en fait, hein. Si une église veut réfléchir sur l'évangélisation, veut évangéliser, elle est obligée, ça passe par une réflexion sur comment elle aime. Comment elle aime. Comment elle vit l'amour. Comment elle aime son prochain. Comment l'amour est développé, est construit, est médité, est réfléchi et est agi concrètement. L'évangélisation porteuse est celle qui s'est liée, donc dans le cas de l'amour, qui s'est liée la communication de la bonne nouvelle. Je répète, qui s'est liée la communication de la bonne nouvelle et une réponse aux besoins des gens. C'est là, c'est dans ce cœur-là, c'est au milieu de ces deux réalités-là que l'amour doit se vivre. Le désir de communiquer la bonne nouvelle, parce que c'est cette bonne nouvelle qui sauve, mais répondre aux besoins des gens. Je me souviens personnellement quand j'étais jeune converti, zélé, vous savez, hein, comme on peut voir là, les jeunes. Moi, j'étais de ceux qui prenaient des prospectus, là, vous savez, qui allait dans les rues et qui les distribuait. Quand je réfléchis, je dis, mais à une époque, je rentrais dans les hôpitaux, puis je distribuais des prospectus et tout cela. Enfin, bref, l'épisode que je voudrais vous raconter, c'est suivant. Je me retrouvais zélé, j'avais mes prospectus dans ma voiture avec moi, et au volant de ma voiture, ou dans les rues quand je passais. Et vous savez, quand les SDF ou mendiants étaient là, ils disaient « chic, hein, je vais pouvoir donner ». Et je venais, bien sûr, lui, il attendait quelque chose. Hein. Moi, je lui donnais mon verset biblique. Et je continue mon chemin. Et j'étais heureux de l'avoir fait. Hein, waouh, j'ai témoigné. Je crois que ça ne répond pas à la notion d'évangélisation telle que selon le modèle du Christ. Hein, et que je veux répéter là. C'est le désir, hein, cette association entre qui lie désir de communiquer la bonne nouvelle et de répondre aux besoins des gens. Voyez, on n'est pas là pour asséner des versets bibliques, des choses comme ça, sans tenir compte des gens. L'amour véritable nous invite à regarder, à découvrir, à être, à sonder, pour connaître, afin de toucher du doigt les vrais besoins de nos contemporains, de la personne. Il faut en répondre. Et la meilleure façon de faire les deux choses de façon équilibrée, c'est de vivre l'évangélisation, donc je disais au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Et dire être ami. Être ami véritable de l'autre. Être ami de façon authentique et profonde, et non pas de façon superficielle. Alors que le monde, hein, alors que la jeunesse aujourd'hui, enfin, la société dans laquelle on se dit, la question serait en ce qui concerne l'amitié, le relationnel et tout ça. Qui sont mes amis? Hein, on dit, combien j'ai d'amis sur Facebook? Qui sont mes amis sur Facebook? Qui sont mes amis sur les réseaux sociaux? La question est inversée pour le croyant, pour le chrétien, me semble-t-il, soucieux d'être là dans une notion de témoignage et d'évangélisation. Ce n'est pas qui sont mes amis, ça serait plutôt je suis l'ami de qui? Vous comprenez? Hein? Je suis l'ami de qui? Je suis le véritable ami de qui? Ceux que je considère amis, ceux qui sont mes amis, ceux dont je suis ami, suis-je réellement? Le suis-je réellement? À quel niveau? Quel degré? En dimension, c'est être l'ami véritable et non pas de façon superficielle. C'est du coup, on pourra réfléchir tout ça. Hein? C'est être là pour lui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, du coup? Être là pour lui. Être là pour elle. C'est la question que je vous pose. Hein? Parce que c'est dans le fait d'être là pour l'autre que pourra s'exprimer. C'est dans ce cadre-là que pourra s'exprimer la réalité de notre foi. De notre foi. Samuel, on a jusqu'à quand? D'accord. Ok. Du coup, je vous propose de dire tout ce que j'ai à dire là, rapidement, et puis après, je vous donne la parole. Parce qu'en principe, on devrait parler. Hein. Je finis vite et puis je vous donne la parole. Ok. Du coup, je disais que on est dans le cadre du relationnel authentique. C'est lié, le fait de lier, donner, je le répète seulement, donner ou communiquer la bonne nouvelle et répondre aux besoins des gens. Donc, ça nécessite de les connaître, de cheminer vers eux, de faire pont, hein, donner des ponts pour découvrir, pour connaître. Et ça, c'est un exercice qui, quelquefois, pour certaines personnes, va prendre toute la vie, bien sûr. Hein, et puis, pour d'autres, en tout cas, demande un effort réel de compassion et d'amour. C'est dans ce cadre-là que se manifeste l'amour véritable, authentique. Et au travers de ça, pourra se vivre l'évangélisation, notre témoignage, notre foi. Par contre, il me semble, pour être pratique aussi en ce qui concerne comment on est, comment on rend témoignage et tout cela, moi je dis qu'il y a grosso modo deux niveaux de départ dans notre témoignage personnel. Deux niveaux de départ, très simples, très basiques. Le premier élément par rapport à la relation relationnelle avec l'autre, en fait, ça passe par juste le fait de laisser savoir que nous sommes chrétiens. Juste le fait de laisser savoir cela, c'est déjà dans la dimension de on rentre là dans ce schéma d'être témoin. Comment peut-on imaginer que je sois l'ami de mon ami sans qu'il sache de moi ce qui est la chose la plus importante qui soit. Hein? Comment je pourrais dire que c'est un ami réel si je ne peux pas ou s'il ne sait pas ce que je suis vraiment, ce qui m'importe le plus au monde? Il me semble que le premier élément dans ce type de relationnel, prendre du temps, de l'amitié authentique et véritable, le premier stade, j'allais dire basique là, peut-être qu'il y en aurait d'autres, hein, mais la première marche hyper basique, c'est que il sache que je suis chrétien, que je vais à l'église. Et ça, il y a 10 000 manières de le faire, hein, à chacun de voir. Mais en tout cas, il doit le savoir, apprendre. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Eh bien, j'ai été samedi soir à un séminaire sur l'évangélisation. Quoi ? Tu passes tes samedis soirs ? Il y avait je ne sais pas quoi à la télé, tu as manqué ça ? Et tout cela, mais c'est super parce que c'est déjà le début d'une réflexion, d'un partage. C'est comme ça qu'il apprend à me connaître. Eh oui. Et je me souviens, moi, qu'à une époque, je n'étais pas enclin à dire ça. Je trouvais le moyen de détourner parce que, avec la honte qui est venue en ce qui concerne ma foi. En tout cas, trouver le moyen de dire qui je suis et ce que je fréquente l'Église et que je fréquente l'Église. Le deuxième stade, me semble-t-il, basique dans notre témoignage personnel, c'est de laisser comprendre donc que nous sommes chrétiens, mais en plus de cela, je vais dire que cela veut dire quelque chose pour nous. Que ça veut dire quelque chose pour nous. Que cela a des implications concrètes, claires, dans notre vie. Par exemple, c'est comprendre que, eh bien en fait, c'est que la foi que j'ai m'aide réellement dans ma vie. Elle m'aide vraiment dans les différentes circonstances de ma vie. Parce que vous savez, là, c'est là qu'on devient vrai, quoi. C'est là qu'on est dans la réalité de la vie des gens. C'est pas juste dire je suis chrétien. Peut-être tout Marseille, moitié de Marseille, enfin non, Marseille c'est quand même une ville cosmopolite, Il y en a plein qui diraient, ouais, mais on est chrétien, on est chrétien depuis de génération en génération, hein, depuis, je ne sais pas, moi, je fais un baptême. Non, ce n'est pas juste dire ça, du coup. C'est dire, non, je le suis et ça a des implications. C'est dire quelque chose, c'est important pour moi. Hein, ça dit et ça implique des choses dans ma vie, hein, ma foi. Et puis, aussi, du coup, que ça entre dans le concret de ma vie. Parce que les gens autour de nous, ils ont une vie vraie, concrète. Ils ont des difficultés, ils ont des maladies, ils ont leurs enfants, ils ont... Et tout ça. Et moi aussi, j'ai tout ça. Et bien, en fait, le défi, là, dans mon relationnel, c'est que on voit que dans ce qu'ils vivent, que je vis aussi, et bien, moi, ma foi a des implications dedans. Vous voyez ? Ça aussi, ça, c'est le niveau basique, à mon sens, du témoignage. C'est le niveau basique du témoignage. Et ça va se concrétiser d'une certaine manière. Quand cet ami va me dire, actuellement, c'est difficile à la maison, on vient de découvrir la maladie de notre enfant. Si moi, dans ma famille, on est passé par quelque chose de ce genre, enfin, ben, tu sais bien que nous on est passé, tu sais bien que j'étais passé par là moi aussi. Oui, je me souviens, j'étais là. Et ben, tu sais ce qui m'a aidé ? C'est que j'ai prié. C'est bête, hein ? Mais on est dans le vrai. Enfin, je dis, tu sais ce qui m'a aidé ? C'est que j'ai prié. Si j'ai vraiment prié, si ça a été vrai, parce qu'il ne faut pas que ça soit un mensonge. Parce que je sais très bien que quelquefois, en fait, on affirme qu'on est chrétien, on affirme être chrétien, mais ça n'a réellement aucune implication dans notre vie. On est chrétien, on le dit, mais ça n'a aucune implication dans ma vie. Quelquefois, hélas. Mais si ça l'a, si ça a des implications, je pense que dans le relationnel avec l'autre, commencent des choses là. J'en dis pas plus, parce qu'après on est dans le concret, on n'est pas dans des trucs. Je ne voudrais pas que nos échanges se résument à des trucs qu'il faut. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce premier niveau relationnel, il me semblait que c'était intéressant d'avoir quelques illustrations. Ça, c'était l'amour, donc. Deuxième point, l'authenticité. Avant, j'appelais ça vérité, mais ce n'était pas assez clair. Le mot, c'est authenticité. En fait, vous savez, évangéliser, ce n'est pas connaître toutes les notions de la théologie chrétienne. Ce n'est pas sortir, hein, ça ne nécessite pas de sortir de la fac de théo. Hein ? De savoir tout dire, de t'avoir tout expliqué, d'avoir la notion sur le créationnisme ou pas, et l'évolution, et toutes ces questions, et tout ça. Il ne s'agit pas de ça au premier chef, même pas au deuxième. Ce dont il est question, ce qui parle à nos contemporains avant toute chose, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'être vrai, d'être authentique. C'est ça qui voit et c'est ça qui témoigne, en premier. Parce que devant ça, on ne peut pas se défiler. Ce n'est pas les mots que j'emploie qui vont les convaincre que je suis vrai. C'est comme je suis. Hein? Comment ma foi m'habite et comment elle s'illustre, elle se concrétise, elle se traduit dans mon aujourd'hui devant eux et dans tous les épisodes de ma vie, ce que eux, ils peuvent voir en silence. Nos contemporains sont des observateurs. Ce n'est pas les blablas qui importent. On n'est plus dans une société du blabla. Paradoxalement, il y en a beaucoup qui font des blablas. On discute, on parle, on fait des discours. Et quand je dis ça, j'en suis en train de parler là. Hein, et tout ça. Mais ne croyons pas que ça soit ce qui impressionne le plus les gens. Ils veulent voir derrière les mots. Et ce qu'ils voient derrière les mots, c'est la parole. Et c'est, je vais dire, l'attitude de vérité, le comportement, la transparence. Et là, vous voyez, c'est dedans, là, c'est avec ça qu'ils rentrent dans un cœur à cœur avec nous, dans la vérité de du relationnel. Hein? On n'est plus dans les faux semblants. Hein, on n'est pas dans, vous savez, hein, en tout cas, moi c'était le cas, j'étais étudiant à l'époque et je ne faisais la vaisselle, honte à moi, je ne faisais la vaisselle que quand je recevais. Sinon les choses la vaisselle s'empilait dans le lavabo et c'est quand je savais qu'il allait recevoir du monde, allez hop, je faisais toute ma vaisselle, je récurais ma maison, tout était nickel pour recevoir. Et il disait, mais Stéphane, purée, ils veulent nous voir tels que nous sommes. Ils ne veulent pas qu'on soit faux, en fait. Et être faux, quelquefois, hein, c'est quelquefois vouloir paraître fort. Hein, parce que, justement, je suis censé dire que comme je suis chrétien, je ne peux pas craquer. Comme je suis chrétien, il ne peut pas avoir ça dans ma vie. On ne peut pas avoir ceci dans ma vie. Vous comprenez, hein? Donc, du coup, je me réfugie dans le paraître, finalement. Ce qui va les marquer, c'est plutôt que de voir que j'ai craqué, que je suis mal, que ça ne va pas, qu'il y a eu cet échec dans ma vie réelle, alors que je suis chrétien. Hein? Et ce qu'ils veulent voir, c'est comment, en tant que chrétien, je vis, que je traverse ce moment-là. C'est ça qui leur parle. C'est ça qui leur parle. Et c'est ça qui parle de ma foi, bien plus qu'autre chose. Être authentique, pour moi, c'est le maître mot dans notre témoignage. Le troisième point, le dernier, c'est la puissance. Je disais donc l'amour, l'authenticité, la puissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis inspiré par Actes. Chapitre 1, verset 8 disait ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. On pourrait lire aussi Matthieu 28. La puissance. En fait, si on réfléchit bien, on est obligé de constater qu'on a besoin de surnaturel pour que notre témoignage ait un impact. De la même manière qu'on a besoin du surnaturel pour que notre prédication ait un impact. Ne croyons pas que c'est une prédication bien ficelée, hein, avec les mots bien choisis, et tout, l'exégèse profonde, enfin, toutes les bonnes applications et tout ça, qui font que le message est un porteur. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur des gens, qui rend la chose profonde. Je lisais, quand j'étais jeune chrétien, je lisais beaucoup de livres de témoignages, vous savez. Et j'en ai lu un qui m'a assez impressionné. C'était l'histoire d'un missionnaire qui était allé, quand on avait découvert le Nouveau Monde, des Amériques, les premiers missionnaires qui étaient allés dans le Far West et qui témoignaient. Et déjà les Indiens avaient été un peu corrompus avec l'alcool et tout ça, enfin toutes ces choses-là, les mauvaises choses venant de l'Occident. Et il est allé dans un village pour témoigner, pour prêcher, mais il ne parlait pas la langue de ces Indiens-là. Et il a dû prendre quelqu'un, un Indien qui était en ville, pour venir traduire pour lui. Cet Indien n'était pas chrétien. Hein, c'est juste un traducteur. Et il est dit qu'il est venu avec cet homme et cet homme était complètement saoul. Mais alors, complètement saoul. Mais il n'avait que celui-là sous la main. Donc, il a fait le travail avec lui, il a prêché. Et puis, c'était quelqu'un de complètement saoul. Il disait qu'il oubliait tous les trois mots, il en oubliait un. Lui-même ne comprenait rien de ce qu'il se disait. Il a prêché comme ça. Et de façon très surprenante, il dit dans ce village-là, il y a eu un nombre impressionnant de conversions. Vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est pas les hommes. Hein? Si nous voulons rentrer dans une dynamique de témoignage, nous devons compter, nous devons faire appel, nous devons sentir le besoin, avoir besoin que Dieu intervienne spirituellement, puissamment, dans nos vies et dans la vie de nos contemporains. La puissance, là, ce n'est pas juste la puissance de l'esprit pour convaincre l'autre, hein, au moment où nous parlons et tout cela. C'est la puissance de l'esprit d'abord pour me changer moi, pour que j'aie ce témoignage dans ma vie. C'est d'abord ça. L'Esprit de Dieu agit à ce niveau-là. Il n'agit pas juste dans le cœur de l'autre qui entend. Pour que même il puisse agir dans le cœur de l'autre qui entend mon témoignage, il doit d'abord agir au-dedans de moi-même et dans ma vie pour me transformer, pour me rendre semblable, petit à petit, en vérité, en authenticité, à l'image du Christ. Donc, oui, l'Esprit de Dieu est nécessaire dans notre vie. Et après, passe toute la question de savoir et de faire en sorte de faire appel à cette puissance. Il vient travailler nos pensées, nos désirs, notre volonté, changer pour agir. Très bien. Je m'arrête là pour vous laisser un peu la parole. Si vous voulez revenir, peut-être s'il y a des choses.